autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Notre invitée du jour étant souffrante, nous vous proposons de réécouter une émission qui avait particulièrement retenu votre attention et pour cause. Autour de la question pourquoi et comment se concentrer, nous nous étions précisément interrogés en octobre dernier avec le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud sur l'art et la manière de préserver et de cultiver nos capacités d'attention, de concentration, mises à mal par toutes les sollicitations de nos vies numérique. Face aux écrans notamment, comment reprendre la main sur notre temps de cerveau disponible? Pourquoi notre esprit est-il systématiquement attiré par tout ce qui brille? Est-il possible d'apprivoiser cette attention fluctuante, voire de jouer avec, en toute connaissance de cause, pour mieux la maîtriser? Autant de questions sur lesquelles planche notre invité, Jean-Philippe Lachaud, le grand spécialiste de l'attention, chercheur à l'INSERM en neurosciences cognitives, co-directeur de l'équipe Eduwell du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, auteur entre autres du Cerveau Funambule. Jean-Philippe Lachaud poursuit sa mission d'éducation à l'attention avec un ouvrage destiné aussi bien aux adolescents qu'aux adultes, joliment intitulé « La magie de la concentration ». Autour de la question comment se concentrer, c'est magique, mais ça se travaille et ça se cultive sur tous les terrains, comme nous le rappelle le champion de tennis Novak Djokovic.
Vous devez vous isoler de toutes les distractions et vous concentrer seulement sur ce que vous êtes sur le point de faire. Pour arriver à ce niveau de concentration, vous devez avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de force mentale. On n'en est pas comme ça. C'est quelque chose que vous devez construire par vous-même.
Novak Djokovic, qui parlait de l'attention et de la concentration, c'est vous qui le citez en exergue de votre ouvrage « La magie de l'attention » qui vient de paraître aux éditions des Jacob. Bonjour Jean-Philippe Lachaud.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir pour partager vos recherches et vos pistes sur l'attention dont vous êtes le spécialiste, chercheur à l'INSERM en neurosciences cognitives. Vous co-dirigez l'équipe Eduwell du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, auteur aux éditions des Jacob du cerveau funambule, mais aussi du cerveau attentif. Vous avez, parallèlement à vos recherches, développé un programme global d'éducation à l'attention à l'école, mais pas seulement. Nos auditeurs se souviennent peut-être de vos petites bulles de l'attention, un ouvrage dessiné qui expliquait aux petits, mais aussi aux grands, comment marche l'attention, comment la maîtriser. Aujourd'hui, vous récidivez, si j'ose dire, Jean-Philippe Lachaud, avec cet ouvrage, plus spécifiquement peut-être destiné aux adolescents, mais aussi aux jeunes adultes, même aux plus vieux adultes que nous sommes, et qui s'intitule « La magie de la concentration ». La concentration, c'est magique, encore faut-il savoir comment ça fonctionne. C'est ça, Jean-Philippe Lachaud?
Oui, tout à fait, c'est ça. Je retiens de la citation de Novak Djokovic que ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on peut construire, la concentration. Après, la grande question, c'est comment, hein. On nous a tous dit un jour ou l'autre qu'il fallait apprendre à se concentrer. Et maintenant, c'est bien joli, mais à un moment, il faut une sorte de cheminement. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui permette, en partant de zéro, de faire des pas progressifs vers une meilleure concentration. C'est l'objet du dernier livre, hein, La magie de la concentration. Les petites bulles de l'attention, c'était une présentation générale de l'attention, un petit peu comment ça fonctionne, en une trentaine de pages. C'est bien, mais on va pas très loin. Là, vraiment, l'idée, c'est de prendre la démarche vraiment de A à Z, une bonne fois pour toutes, que ce soit pour les enfants.
C'est voilà. Ça, de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment notre attention et pourquoi elle est aussi fluctuante que ça. Hein. Vous aviez écrit le cerveau funambule. Alors, pour ça, même apprendre à jouer finalement avec sa propre attention, sa propre concentration. Vous-même, vous êtes assez joueur, hein, Jean-Philippe Lachaud, parce que c'est très facile de lire ce livre parce qu'il y a des choses qui sont surlignées, qui attirent notre attention. Vous dessinez de manière assez drôle, un petit personnage, Anatole ou Anatolette, hein, on va faire de jaloux, qui pose des questions à un chercheur qui n'est autre que vous-même. Mais on peut jouer avec son attention, c'est-à-dire qu'on peut faire feu de tout bois finalement pour comprendre comment ça marche et
exactement.
La faire fonctionner.
Absolument, bah, ça c'est quelque chose que je dis qu'on dit aux enfants dans les classes, on leur dit, bah, regardez, apprendre le ski, ça prend du temps, faire du judo, apprendre à rester stable, ça prend du temps. Mais ça prend du temps aussi parce qu'il faut être dans les bonnes conditions, il faut être à la montagne pour le skier, avec des skis au pied. Il faut être dans un dojo pour faire du judo. La concentration, on peut l'apprendre tout le temps. En fait, n'importe quelle activité de la vie quotidienne permet d'apprendre à mieux se concentrer. Et effectivement, c'est un jeu, c'est quelque chose qui doit être vu comme très agréable. En fait, on on a plus de satisfaction à faire ce qu'on fait, à être avec les gens avec lesquels on est. C'est pas un calvaire, c'est pas un travail.
On n'est pas obligé d'avoir les yeux froncés, d'être serré, d'être pas du tout en fait.
Complètement casser cette image-là, effectivement, de l'effort, de concentration. Non, c'est léger, c'est une attention posée sur une chose à la fois.
Sur une chose à la fois. Tiens donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus urgent aussi, parce qu'on est quand même de toutes parts assaillis. Devant moi, j'ai un ordinateur, téléphone portable dans ma poche, les enfants aussi. Et on entend d'ailleurs un peu partout ce constat que vous faites vous-même. Attention, attention aux écrans, attention à notre attention et notre concentration. Attention à notre attention, c'est comme ça qu'il faut dire.
Exactement. Oui, il y a beaucoup de... On en est un petit peu à la phase de l'alarme, là. De plus en plus, voilà, on entend ces signaux d'alarme. On est en train de se faire pirater notre attention. Dans les documentaires, c'est vraiment l'idée. Manipulation de l'attention, manipulation de la vie mentale, ce qui n'est pas complètement faux d'une certaine façon. Donc vraiment, l'enjeu maintenant, c'est de proposer quelque chose de positif. Moi, j'aime bien dire que par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui maintenant semblent effectivement nous voler quelque chose, j'aime bien les comparer à un piège à souhait avec du fromage. Il faut pas tout jeter.
Il y a le fromage.
On fait des choses merveilleuses avec. Enfin, il y a des contenus merveilleux. Le truc, c'est d'apprendre, de nous apprendre nous-mêmes, d'apprendre aux gens à prendre le fromage sans se faire prendre par le piège à souris.
Autour de la question pourquoi et comment se concentrer, alors on va commencer par le pourquoi justement et par ce constat dont on vient de parler, illustré hier soir encore par un documentaire diffusé sur la chaîne Arte, documentaire au titre lui aussi en forme de question, génération écran, génération malade, point d'interrogation. Et bande-annonce.
Les écrans, c'est un enjeu de santé publique majeur actuellement.
Avant d'entrer à l'école, un enfant passe entre 4 et 6 heures par jour devant un écran quel qu'il soit.
Perturbation du sommeil, perturbation de l'attention et difficultés d'apprentissage.
Il y a toujours eu des enfants difficiles, évidemment, mais là, il y en a beaucoup plus.
L'exposition prolongée à des vidéos rapides et saccadées conditionnerait le cerveau à une surstimulation.
Entre 10 et 20 ans, on constate des changements majeurs dans le cerveau.
Les neurones se reconfigurent et créent de nouvelles connexions.
Le changement de la structure du cerveau des joueurs atteints du trouble du jeu vidéo est similaire à celui des toxicomanes.
En Chine, le jeu vidéo est perçu comme un tel fléau social que des dizaines d'établissements proposent aux parents désemparés de désintoxiquer leur enfant.
Bande annonce du documentaire Génération écran, génération malade, point d'interrogation, diffusé hier soir sur la chaîne Arte et visible en replay sur Internet. Jean-Philippe Lachaud, faut-il parler de toxicomanie, de dépendance aux écrans, ou est-ce qu'on va un peu trop loin, ou est-ce qu'il est bon de nous alerter ?
Non, il est bon d'alerter. Après, il ne faut pas tout jeter. Il faut vraiment regarder les choses de façon précise. Même si vous avez des enfants qui font beaucoup d'écrans, je vous encourage à regarder ce qu'ils font. Enfin, pas de façon intrusive, etc. Mais au moins comprendre. À un moment, un enfant va, je sais pas, regarder des tutos de guitare pour apprendre un morceau. Bah, c'est très bien. Il a besoin d'interagir socialement, etc. Mais par contre, il est très clair que les mécanismes qui provoquent cette espèce d'excitation permanente à aller sur les écrans, à avoir plein de contenu tout le temps, on les connaît, ils utilisent un circuit dans le cerveau qui circule la récompense et qui, effectivement, est celui qui est à l'origine des addictions aux substances, aux drogues, etc. Donc, sans dire que c'est la même chose, il y a des mécanismes communs très clairs. Et donc, il y a un enjeu de reprise de contrôle, ça c'est très clair.
C'est ça, enjeu de reprise de contrôle de nos vies, de notre esprit, de ce qui se passe, et aussi du fait que notre cerveau, la manière dont on fonctionne, notre attention, notre concentration, elle est facilement happée par autre chose, mais c'est normal, ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça.
Exactement. En fait, on a une attention qui est faite pour se réorienter de façon un peu réflexe vers ce qui peut être un danger autour de soi, donc une voiture qui nous arrive dessus, donc un événement saillant, et puis aussi ce qui est agréable, de la nourriture quand on a faim, etc. Et ces trucs ancestraux, en fait, ils sont toujours dans notre cerveau, et c'est ces mêmes systèmes qui vont faire qu'on va se jeter sur une petite notification sur l'écran, qu'on va vouloir regarder une nouvelle vidéo, etc. etc.
On est attiré par le neuf, par le nouveau,
le
par
neuf,
ce qui brille, par l'excitant.
Exactement,
c'est ça.
Tout à fait.
C'est un excitant. Vous aviez d'ailleurs vous-même participé à un documentaire sur Arte, hyper connecté, où le cerveau en surcharge, c'est un peu ça, on est constamment aujourd'hui un peu en surcharge.
C'est ça, on est face à beaucoup plus, beaucoup trop de stimuli par rapport à ce que le cerveau peut traiter. Avant c'était déjà le cas, mais alors c'est multiplié par un facteur 1000 ou 1 million, donc c'est clair que notre attention est complètement dépassée. Alors j'aime bien utiliser le mot de mentalimentation, qui n'est pas un joli mot.
Mentalimentation, oui.
Qui est simplement en fait, qui utilise le fait qu'en France notamment, on est tellement soucieux de ce qu'on donne à manger à nos enfants, Voilà, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est pas trop gras, trop sucré. Mais en fait, l'attention, c'est ce qui guide, ce qui alimente notre mental. Donc, il faut aussi s'intéresser à ce qu'on donne comme alimentation mentale à nos enfants, c'est-à-dire cette mentale alimentation. Donc, c'est là que l'attention, c'est la fourchette, en fait, qui pique telle nourriture plutôt que telle
là
autre.
Là où il faut, où on choisit les aliments avec lesquels on va nourrir, puisqu'en fait, on se nourrit de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on entend, et se construire. Un de nos auditeurs, Sini Widrago, il nous dit, mais il y a une différence entre attention et concentration. Ce serait quoi la différence, Jean-Philippe Lachaud ?
Oui, alors, l'attention, moi, j'aime bien dire que je peux être attentif à un livre, si j'ai un livre sous les yeux, je vais être attentif. Comme ça, si quelqu'un le vole, je vais tout de suite pouvoir m'en rendre compte. Mais c'est pas lire. On est concentré sur la lecture. Dans la concentration, il y a une notion de tâche en plus. On est actif par rapport à son objet d'attention.
On est actif dans la concentration. Et il nous demande aussi, cet auditeur, comment améliorer sa concentration en cas de stress. C'est une bonne question, parce qu'en cas de stress, on la perd, hein, la concentration.
Alors tout à fait. Il y a des effets de type attention tunnel, c'est-à-dire que l'attention va se resserrer, elle va être plus rigide. En fait, ce qui se passe dans le stress, c'est que le stress va changer certains équilibres chimiques dans le cortex préfrontal à l'avant du cerveau, qui justement régit la concentration. Donc on va être moins concentré. Et dans ce cas-là, le premier effet, c'est de ralentir. On ralentit et on essaie de souffler et de se calmer un peu. Parce que vraiment, on ne va pas pouvoir être bien concentré quand on est stressé.
Donc respirer effectivement et arrêter un tout petit peu la machine pour ne pas se laisser embringuer, que ce soit dans le plaisir ou dans le stress. Dans les deux, c'est ça ?
Le stress est un appel à une réaction rapide. Ces réactions rapides, elles vont être stéréotypées selon nos automatismes. Donc il faut contrer ça, il faut vraiment faire quelque chose de totalement contre-intuitif, c'est-à-dire ralentir, arrêter d'agir. Alors, sauf évidemment quand il y a danger de mort. Bon.
Bien sûr, mais du coup, c'est parfois contre-intuitif ce que vous conseillez de faire, mais pas toujours. Vous avez parlé du circuit de la récompense, très important de comprendre ce circuit de la récompense. Ben, j'ai envie de vous faire écouter, hein, chers amis auditeurs et auditrices, Anatole, c'est dans votre ouvrage, hein, Jean-Philippe Lachaud, dans la magie de la concentration. Ben, on comprend grâce à vous, parce qu'Anatole discute avec le chercheur, que c'est ce circuit-là qui le mène par le bout du nez, ou plutôt par le bout du doigt de son écran tactile. On écoute Anatole et le circuit de la récompense, lu avec attention par Félix, âgé de 13 ans.
Là, j'avoue. Ça a été une belle claque, cette histoire de circuit de la récompense. Avant, je pensais que quand j'allais sur mon téléphone, c'est juste que j'en avais envie. Parce que c'est ce que je voulais faire, c'est tout. Mais c'est flippant de penser que c'est parce que dans mon cerveau, il y a des neurones qui cherchent à m'obliger à le faire. Quand les circuits de la récompense veulent un truc, on en a envie. Et lâche pas facilement l'affaire.
C'est bien ça le problème avec notre cerveau, enfin, et avec le circuit de la récompense, c'est qu'il lâche pas l'affaire et qu'il nous invite à aller... toujours vers le plaisir, vers ce qui nous fait du bien. Donc, allez vite regarder ce qu'il y a sur le portable, vite cliquer là-dessus, vite regarder le mail, vite, vite, vite.
C'est ça, il peut se comporter un peu comme un despote. Alors, il faut toujours, évidemment, sans circuit de la récompense, si t'es complètement éteint, on serait complètement déprimé, en fait. On n'aurait pas de plaisir à faire les choses.
Donc, il est important, ce circuit de la récompense.
Il est très important, hein. Il donne envie, mais il ne faut pas qu'il prenne tout le contrôle. Parce que sinon, toutes nos actions vont être uniquement dictées par une recherche de l'excitation, de la gratification immédiate, et ça, c'est pas bon.
Mais alors, comment faire la différence entre justement la récompense, ce circuit de la récompense et le fait qu'on aime bien faire des choses qui nous font du bien, comment faire pour ne pas se laisser attraper? C'est où la limite entre comment reprendre le contrôle, reprendre notre temps de cerveau disponible, pour reprendre ce qu'avait dit à l'époque un patron de télévision? Comment faire, Jean-Philippe Lachaud?
Déjà, ça dépend du moment. Il y a des moments où en fait c'est parfaitement, il n'y a aucun problème à se laisser happer par ces technologies, parce que finalement on est dans une salle d'attente, il n'y a rien à faire, enfin, je ne sais pas quoi, on passe le temps, tout simplement. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans le contrôle permanent non plus. Moi, j'aime bien parler de... Vous avez ces petites bandes dessinées où, pour les jeux pour enfants, il y a 3 cases et il faut deviner l'image d'après. Alors, on voit 3 images possibles et quelle est l'image d'après. J'aime bien essayer de développer ce réflexe de, quand je sens que mon circuit de la récompense me jette dans une direction... Toute petite pause, c'est quoi l'image d'après, en fait? Où est-ce que ça va me mener, finalement?
Qu'est-ce que je veux? Quelle est mon intention, finalement?
Exactement. C'est un petit coup d'œil dans le futur. Ah, mais en fait, mais non, mais je veux pas regarder cette énième vidéo sur YouTube. En fait, j'en ai pas vraiment besoin. Donc là, on rouvre. Et ce sentiment d'ouverture, de dire, il n'y a pas à ce moment-là que cette énième vidéo. Il y a un autre monde à côté. On reprend de la distance, un peu comme si on montait en haut de la vigie d'un bateau. On voit les choses autour de soi et là, on prend une vraie décision éclairée. Donc, ça donne l'impression d'un truc très intellectuel, mais en fait, ça devient un réflexe. Un petit réflexe qui est de dire, hop, mais où je vais là? C'est un peu comme, vous voyez, vous arrivez à un carrefour en vélo à toute allure et vous sentez que vous perdez le contrôle, qu'il y a un danger. Le réflexe, c'est de ralentir un peu pour regarder autour de soi, est-ce qu'il y a une voiture qui arrive ?
Ralentir un peu, vous dites, c'est pas intellectuel. Oula, et non seulement c'est pas intellectuel, mais d'ailleurs là, je viens de bouger ma main et j'ai heurté mon micro. Mais c'est qu'effectivement, tout le corps, c'est aussi un indice, le corps. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de bouger, ou on peut regarder notre corps pour savoir où est notre attention. Et notre attention, elle est à la fois dans notre mental et dans notre corps. Les deux sont liés.
Oui, bien sûr. Dans le cerveau, d'ailleurs, les neurones, il y a des distinctions très, très floues entre les neurones qui servent de l'activité purement cognitive et l'activité motrice. Il y a beaucoup de motricité. Le simple fait de comprendre le langage, ça implique de la motricité. Cette distinction, elle est apparente de l'extérieur. Mais dans le cerveau, c'est beaucoup plus confus. Enfin, il y a beaucoup moins de dissociation entre le corps et l'esprit. Et effectivement, les déplacements de l'attention vont être très souvent associés à des déplacements du corps. Donc on peut voir l'état d'esprit de quelqu'un juste en observant son corps. Et la concentration, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Il suffit d'écouter Novak Djokovic. Bah, il est quand même dans une activité sportive qui implique le corps principalement.
Et d'ailleurs, quand on écoute les grands sportifs, les grands athlètes en général, eux, alors il faut absolument qu'ils soient très concentrés, très attentifs, mais ça ne veut pas dire très repliés sur eux-mêmes et très serrés. Au contraire, c'est une forme d'attention, de concentration qui est dans le moment présent, qui est juste. Difficile à dire comme ça, mais c'est ça qu'il faut rechercher.
Oui, tout à fait. Cette notion d'attention très resserrée, crispée, elle n'a aucune raison d'être associée avec la concentration. Un joueur de tennis du niveau de Novak Djokovic va être concentré sur des patterns de jeu qui sont quelque chose de très ouvert, sur de la géométrie du court. C'est très fluide, en fait, très flexible. Il faut arrêter cette association avec quelque chose de crispé où on voit bien les sourcils. C'est très ouvert, la concentration. Ça peut s'appliquer à tout. Vous prenez un cycliste dans un peloton lancé à toute allure avec plein de cyclistes, d'autres cyclistes autour, il ne faut pas tomber. On voit bien qu'il a une attention très ouverte, mais en même temps, il est très concentré.
Et on le voit aussi pour quelqu'un qui aime faire la cuisine, quand il fait bien la cuisine, il est bien concentré dans ce qu'il fait. Enfin, ça marche pour toutes les tâches, c'est ça.
C'est ça. Et alors là, c'est vrai que pour le sport, on a tendance à associer concentration et performance ou tension. Voilà. Mais en fait, dans la vie de tous les jours de nous tous, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, la concentration, elle va plutôt intervenir. Aussi souvent intervenir dans des moments où on cherche à vraiment profiter de ce qu'on est en train de faire. Vous écoutez un morceau de musique, vous allez être concentré sur ce morceau de musique ou cette émission, par exemple. C'est pas pour atteindre un but particulier, c'est juste pour avoir plaisir, parce que sinon ça sert à rien de l'écouter, ce morceau de musique, si vous n'êtes pas dedans finalement. Donc la concentration, elle va souvent être recherchée de façon un peu intuitive pour cette dimension de plaisir, de satisfaction à faire ce qu'on fait.
Satisfaction profonde, au fond, c'est ça qui permet, entre le circuit de la récompense très rapide et un espèce de bien-être plus profond, ce serait
voilà.
ça.
Voilà, hein. C'est pas une excitation qu'on va rechercher, mais c'est vraiment le fait d'être bien dans ce qu'on fait. Tout à fait.
Eh bien, bien dans ce qu'on fait, c'était, j'imagine, le cas des ou que vous avez eu envie d'entendre sur RFI. Vous avez choisi de nous passer entre les oreilles Pinball Wizard, le magicien du flipper. On écoute les ou sur RFI et on reste concentré. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Seen nothing like him in any amusement hall. That damn dumb blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counters fall. Mean pinball. Ça fait du bien par où ça passe, les roues sur RFI. Pinball Wizard, le magicien du flipper. C'est votre choix, Jean-Philippe Lachaud, et en écoutant les paroles, on comprend un peu pourquoi. Le magicien du flipper.
Ouais, alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une phrase que j'ai réussi à repérer là. He got no distraction. Donc effectivement, il n'est pas distrait. C'est l'histoire d'un magicien du flipper hein, qui est exceptionnellement bon dans ce qu'il fait. Et ben, il n'est pas distrait. Quand il est dans son flipper, il est totalement dans ce qu'il fait. Donc il a cette sensation de plénitude. Première raison. Deuxième raison, c'est que j'ai commencé vraiment sur le tas, il y a 2-3 ans, à prendre la guitare, que j'ai appelée Facebook, ma guitare, parce que tout le temps, parce que, tout le temps que les autres passent sur des réseaux sociaux et autres, moi je le passe à apprendre un instrument de musique. Et il se trouve que j'ai appris à jouer ce morceau, que j'adore le jouer, et que, vous voyez, en écoutant le morceau, je ne l'ai pas écouté de façon passive. Enfin, j'étais concentré en me remémorant le mouvement que je faisais.
Et vous le faites d'ailleurs, solo, ouais. Vous faites de l'air guitare, là,
ouais,
voilà, ce studio.
Ouais, tout à fait. Hein,
dans
et je
ce studio.
Suis complètement dedans.
Et ça, c'est vraiment l'attention, la concentration portée sur quelque chose qu'on aime et qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir.
Exactement, parce que là, je ne l'ai pas écouté pour le travailler, je l'ai écouté par pur plaisir.
Et bien, nous aussi, ça nous a fait plaisir. Autour de la question, pourquoi et comment se concentrer? Je rappelle, Jean-Philippe Lachaud, vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, spécialiste de l'attention, et que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un livre, presque un guide.
Un guide, oui.
Un guide illustré par vos soins. Hein, vous dessinez pas mal du tout, hein, ce petit Anatole, qui s'intitule La magie de la concentration, ouvrage moi que j'ai adoré. Et vous pourrez ainsi découvrir une notion que vous développez souvent et qui est très claire, que tout est question finalement d'équilibre et d'équilibre attentionnel. Et pour l'expliquer aux enfants comme aux grands, vous utilisez une image. C'est ça de la poutre, Jean-Philippe Lachaud.
Oui, tout à fait. Quand vous avez quelque chose à faire, il y a un point A, un point B, enfin un début, une fin, c'est comme un fil. Et vous savez que votre attention va avoir tendance à être distraite sur le côté. L'attention est toujours distraite sur le côté, enfin ou en haut ou en bas, mais en tout cas, elle va être décentrée. Et le jeu, pour arriver à rester sur sa tâche, c'est de ramener l'attention le plus tôt possible. Et c'est exactement ce que fait un funambule sur son fil ou un gymnaste sur sa poutre, tout simplement.
Vous avez d'ailleurs beaucoup discuté avec un certain funambule qui s'appelle Nathan Paulin. Alors justement, pour illustrer cet équilibre attentionnel, je propose d'écouter le funambule Nathan Paulin, donc highliner, détenteur de plus d'une dizaine de records du monde. Nathan Paulin, il a entre autres repoussé toutes les limites en traversant sur une slackline, hein, une courroie, un fil, les 670 mètres qui séparent la tour Eiffel du Trocadéro. Oui. Sa plus longue traversée, je crois que c'était au-dessus du cirque de Navacelles, 1662 mètres à 300 mètres de hauteur. Je propose de l'écouter partager son équilibre attentionnel sur le fil toujours et sur France 3.
Moi, ce qui me plaît dans cette pratique, c'est que ça me captive toute mon attention. Je suis quelqu'un qui était assez dissipé à l'école, j'écoutais ce qui se passait à droite à gauche. Et le fait de marcher sur une sangle, ça me mettait dans une bulle et j'avais besoin de retrouver cette sensation d'être concentré pleinement et d'être bien dans l'instant présent. Et donc, quand j'ai fait 10 mètres, et ben, finalement, je perdais un peu ce besoin de concentration intense parce que ça devenait facile. Donc, il fallait que je fasse 20 mètres. Et après, il fallait que je fasse 30 mètres pour retrouver toujours cette concentration. Et puis, à un moment, ben, les limites, c'était plus mes limites, c'était les limites du sport tout court et c'est devenu des records. Les grandes traversées, c'est 80% dans la tête, de confiance en soi, confiance dans le matériel. La sangle sur laquelle je marche, elle tient, elle est attachée, elle est doublée dans le vide, elle s'est doublée. Il faut se persuader aussi soi-même qu'on peut le faire. Aussi, ne jamais lâcher, parce que souvent, c'est sur un instant qu'on va chuter. Et si on arrive à passer par-dessus cet instant en disant « non, je chute pas, j'y vais », et c'est ça qui fait la différence.
Nathan Paulin, funambule champion du monde de slackline, avec qui vous avez échangé hein, justement, Jean-Philippe Lachaud, sur cette question de l'attention. J'ai envie de m'arrêter sur ce qu'il dit. En un instant, on peut chuter. En fait, si sur sa sangle, sur le fil, oui. Eh ben, on n'est pas soi-même dans son esprit sur le fil et qu'on pense à autre chose, c'est foutu.
Oui, tout à fait. Nathan, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il m'avait dit qu'il était venu à slackline après être passé par la méditation. Ça m'a amusé quand il m'a dit ça, parce que ce n'était pas assez exigeant.
Et la méditation.
La méditation n'était pas assez exigeante du point de vue de
la méditation. Peut-être méditer sur un fil à 600 mètres de hauteur, voilà. Oui.
Bah là, ouais, effectivement, là, la moindre erreur, c'est la chute. Hein. Alors bon, heureusement, il ne fait pas partie de ces kamikazes qui ne s'attachent pas. Donc ce n'est pas la mort, mais c'est quand même c'est extrêmement désagréable. C'est même très dangereux. Donc il a cette exigence tout le temps. Après, au quotidien, on n'a pas tous une exigence de vie ou de mort. Et c'est pas pour cette raison-là qu'on est concentré. Moi, ce qui m'intéresse aussi énormément chez Nathan Paulin, c'est de voir les états dans lesquels il arrive à se placer par la concentration. C'est des aides de félicité, enfin des aides absolument incroyables. Et j'ai envie de dire que mon obsession depuis des années, c'est de pouvoir tirer des neurosciences un moyen pour que tout le monde puisse accéder à ce genre d'état en maîtrisant leur concentration. Et avec l'obsession supplémentaire d'arriver à l'expliquer le plus clairement possible. En fait, je ne fais que ça depuis toutes ces années-là. Non pas obliger les gens à atteindre ces états-là, mais leur permettre de les atteindre.
C'est ça, il y a aussi une question morale là-dedans. Par ailleurs, vous êtes chercheur en neurosciences et vous cherchez à comprendre comment et pourquoi ça fonctionne comme ça. Vous essayez de le faire passer au plus grand nombre parce que finalement, peut-être qu'aussi une des raisons de notre mal-être, on a plein de raisons d'être malheureux ou d'aller pas bien, c'est peut-être aussi, vous parlez des nourritures, mais c'est peut-être aussi parce que être attentif, être concentré, ça fait du bien et on est bien. Il y a des états qu'on pourrait atteindre, que nos jeunes pourraient atteindre aussi en apprenant, qui font du bien, qui nous font profondément du bien, bien plus que nos multiples excitations, qu'on aime bien aussi, mais qu'il faut laisser à leur juste place, c'est ça ?
C'est exactement ça, en fait. Si votre seule récompense à faire ce que vous faites, c'est soit l'excitation transitoire que vous en retirez, soit votre salaire à la fin du mois, on arrive à une société complètement déprimée. Il faut absolument ramener à un autre type de récompense qui est beaucoup plus profonde, qui est ce sentiment de plénitude à faire ce qu'on fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a absolument urgence. Et puis aussi, tout simplement, parce que sans attention, il n'y a pas d'apprentissage possible. Si les jeunes générations n'ont plus une attention stable, ils ne peuvent plus rien apprendre. Donc vous imaginez ce que ça donne comme type d'adulte.
Précisément à ce sujet, une de nos auditrices, Léa, vous demande, Jean-Philippe Lachaud, de parler de la concentration chez les enfants, elle dit en classe, et comment adapter les méthodes d'enseignement pour capter au mieux l'attention. C'est du point de vue du professeur, hein, oui. Mais vous avez beaucoup travaillé avec des instituteurs.
Ouais, c'est amusant comme question, en fait, parce que... Enfin, c'est amusant. Effectivement, j'ai toujours pris le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire que peut faire l'enfant pour mieux maîtriser son attention, sans prendre celui de l'enseignant, parce que finalement, je ne veux pas être donneur de leçons, et moi, je ne gère pas une classe au quotidien, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir 25 élèves dans ma classe, donc je ne suis pas là pour leur donner des leçons sur la façon dont il faut mener sa classe. Après, ça ne m'empêche pas de proposer certaines choses. Et le programme ATOL, en fait, quand on le mène, soi-même...
Le programme ATOL, c'est...
ATOL, A-T-O-L-E, apprendre à être attentif à l'école, c'est donc le programme... le programme qu'on développe dans les écoles. En fait, les enseignants qui le mènent, d'eux-mêmes changent leurs gestes pédagogiques. Et par exemple, des choses aussi simples que le fait de donner des consignes très claires, pas trois consignes en même temps, mais une seule, le fait d'expliquer à l'enfant ce qu'on attend d'eux, vraiment qu'ils sachent, avant de s'engager dans une tâche, vraiment quelle est l'intention très claire de cet exercice qu'ils doivent faire. Bah, tout ça, c'est des choses qui vont les aider à se concentrer, c'est évident.
Et vous préférez, Jean-Philippe Lachaud, vous adresser aux enfants pour que tout petit, ils peuvent très bien comprendre comment ils sont attirés par autre chose, pourquoi ils n'entendent pas quand on les appelle à table parce qu'ils sont justement concentrés sur autre chose. Vous avez des exemples très très précis qui sont complètement compréhensibles par tout un chacun.
Bah, à la limite... Déjà, à la base, vous prenez un tout petit enfant, mais hyper jeune, de quelques années à peine. Vous faites une petite scénette avec deux peluches, une qui parle à l'autre, et puis la deuxième s'en va tout d'un coup en plein milieu de la conversation. Bah, l'enfant va tout de suite voir qu'il y a quelque chose de bizarre, il va rigoler, et il voit que ça se fait pas. Quand quelqu'un vous parle, vous partez pas, il y a une certaine attention. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement les enfants, en fait, c'est de parler de l'attention et de la concentration et de proposer des moyens à tout le monde. Mais l'école, c'est quand même... Enfin, l'école devrait quand même s'occuper de l'attention. Donc, j'essaie de combler cette lacune pour l'instant, à ma façon.
D'autant plus que nos enfants sont de plus en plus, comme nous d'ailleurs, sollicités par tout un tas d'outils et de choses beaucoup plus excitantes que l'école.
Bien sûr, exactement. Mais il faut arriver à découpler cette attention de ce circuit de récompense. Sinon, dès l'instant où ils sont face à un cours qui n'est pas immédiatement intéressant, ils vont s'en désintéresser.
C'est ça. Donc, dans ces cas-là, vous donnez c'est pas des trucs, mais des choses qu'on peut appliquer au quotidien, faire une tâche une après l'autre, et comme vous disiez déjà, ne donner une consigne qu'une après l'autre, mais faire une tâche une après l'autre, parce que sinon c'est une montagne qu'on n'arrive pas à franchir. Donc au fond, c'est être dans l'ici et maintenant, c'est ça.
Oui, puis alors ça, effectivement, c'est une partie. Il y a toute cette partie de développement du sens de l'équilibre, comme le disait Nathan Paulin. Il y a aussi ces modes d'emploi pour se concentrer, que j'appelle PIM dans le livre, mais qui par exemple vont faire qui vont t'expliquer vraiment de façon très, très simple à l'enfant, comment il doit se connecter à une tâche. J'écoute quelqu'un qui me parle, qui me raconte une histoire. En l'écoutant, je vais essayer de me former des petites images mentales de ce que décrit la personne, comme si je devais redessiner, par exemple, après, ou faire un petit film. Eh bien, ça m'oblige, ce travail, à être actif et à bien comprendre ce que me dit cette personne-là.
Donc, il y a beaucoup de moyens pour apprendre à se concentrer autour de la question « Comment se concentrer ?» Pourquoi certains y arrivent mieux que d'autres ? Je propose d'écouter un témoignage. C'est celui de François Farge, professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle, commissaire scientifique de l'exposition « Pierres précieuses hein, » actuellement au Muséum. Il était la semaine dernière notre invité et il partageait devant une pierre précieuse ou non, hein, celle qu'il étudie, comment il se met dans un état d'attention et de concentration absolue. On l'écoute, ça vaut mieux qu'un long discours.
Quand on regarde une pierre, on a tous les sens en éveil. Alors la 3D, c'est un sens, il n'est pas olfactif, il n'est pas sonore, mais c'est vraiment un troisième sens. C'est vraiment un sens supplémentaire. On essaye de comprendre la tridimensionnalité qui nous permet de comprendre comment l'objet s'est construit. Et donc, ça nous donne une sorte de chronologie. Ça nous donne une sorte de suite d'événements qui permet de mieux comprendre. Et effectivement, après, on combine cette approche un peu de scanner, entre guillemets, avec donc l'approche plus sensorielle, essentiellement les couleurs en ce qui concerne les pierres, le toucher, la pesanteur, toutes ces choses-là qui nous renseignent. Et après, je dirais que, en tout cas dans mon cas de figure, c'est après l'intuition qui prend le relais. Il y a quelque chose qui se déclenche que je serais bien incapable de dire, de théoriser, de raisonner, qui me dit que, en fonction certainement de mon expérience passée, mais alors distribué dans des cases extrêmement lointaines et confuses de ma mémoire, font que, sans faire de jeu de mots, il se cristallise une idée à partir de ce minéral qui me dit que celui-là, c'est plutôt cette espèce qui vient de tel gisement et qui a été certainement remaniée par telle culture.
Jean-Philippe Lachaud, si c'est pas de la concentration et que ça mène pas à l'intuition et à la créativité, c'est un exemple parfait de ça,
ce témoignage. Il est très beau ce témoignage parce qu'il illustre parfaitement à quel point on peut, en variant de façon très subtile son attention, en la plaçant sur ceci ou cela, sur des propriétés différentes d'un même objet, on peut le voir de façon complètement différente et avoir des sensations très très fortes. Moi, il y a un exemple que je cite dans la magie de la concentration, c'est je passe devant le jet d'eau de Genève, ce grand jet d'eau. Et puis, en fait, spontanément, j'ai juste reconnu comme étant le jet d'eau de Genève. Aucune émotion particulière, rien. Et puis je me suis arrêté, je me suis dit stop. Je vais faire attention à différents éléments. Alors, c'était au niveau de la base du jet d'eau. L'eau part à une vitesse qui est phénoménale. Et en fait, on sent cette puissance-là. Donc, je me suis focalisé là-dessus. J'ai eu cette sensation presque corporelle, de puissance. Ensuite, j'ai fait attention à l'eau qui retombe. Alors, elle retombe de plusieurs dizaines de mètres. Donc, elle retombe dans l'eau et bam, comme ça. Et là aussi, on a vraiment une sensation très forte, très majestueuse. Et donc, je variais à chaque fois de façon très légère la façon de placer mon attention sur le même objet. J'avais des sensations vraiment à chaque fois, un vécu et une connexion à l'objet qui était complètement différente. On peut tous faire ça à n'importe quel moment de notre vie.
Et on peut tous faire ça devant un brin d'herbe, devant une œuvre d'art. Et effectivement, ça fait du bien, ça met en jeu, on l'a dit, le corps, l'esprit, et ça ouvre aussi notre créativité. Il y a quand même quelque chose, cet ordre-là. Quand on dit ça fait du bien, c'est aussi parce que quand on est concentré, donc plutôt calme, attentif, on respire bien, et puis il y a peut-être autre chose qui peut émerger aussi, tout simplement.
Mais je pense qu'en fait, l'art ou la poésie, ont cette vocation aussi, c'est-à-dire de dire, regardez, ce paysage, on peut y faire attention, on peut le percevoir aussi comme ça. Vous le perceviez comme d'habitude, mais on peut le percevoir aussi comme ça. Donc c'est un décalage de l'attention et de la façon dont on perçoit les choses.
Ouais, on en revient toujours à ces décalages, ouvrir, enfin il y a tout ça dans l'attention,
bien
la
sûr,
concentration, le fait de se centrer à l'intérieur de soi et de faire taire un peu tout ce qui pourrait nous attirer au dehors, c'est un peu ça aussi.
Oui, mais pour ça, il faut s'y intéresser. Et effectivement, le jeu sur l'attention va être un jeu sur la façon dont on perçoit le monde. Donc on découvre tout d'un coup un degré de liberté qui est formidable. On peut marcher dans la rue, alors l'attention généralement dans la rue, c'est y a des choses écrites, donc on les regarde, il y a des gens en face, on les regarde. Enfin, c'est une attention très focale et très séquentielle. Mais on peut tout d'un coup basculer son attention pour avoir une attention beaucoup plus globale sur la forme des bâtiments, par exemple. Un ressenti de leur masse, de leur densité et de l'organisation dans l'espace, un peu comme un architecte. C'est la même promenade, Vous faites le même chemin, mais vous percevez les choses de façon complètement différente, tout d'un coup.
On est vivant, on est très 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 vivant dans ces cas-là, un peu plus que quand on peut avoir de la musique dans les oreilles, mais quand on a quelque chose dans les oreilles et qu'on est replié sur soi-même, on est plus vivant quand on est là et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on est attentif quand même.
Alors on est vivant différemment, moi j'aime pas faire de jugement de valeur,
parce qu'après
tout, on peut émettre perdu dans ses pensées,
c'est vrai.
Mais en tout cas, il y a d'autres possibles.
Il y a d'autres possibles. Il y a une question d'auditeur, justement, qui nous demande quels sont les effets bénéfiques de la concentration sur la santé mentale.
Une très bonne question. Alors, j'en vois plusieurs. Si vous maîtrisez votre attention, par exemple, votre attention va même plus se laisser engluer dans des ruminations dépressives. Le fait de penser tout le temps la même chose à des choses négatives, en fait, c'est votre attention ce qui est scotché. Donc, si vous avez une vraie maîtrise de votre attention, vous pouvez la rediriger sur autre chose.
C'est-à-dire, ok, j'ai des pensées comme ça, mais j'ai envie un peu de décaler, un peu de penser à autre chose, faire la place à autre chose.
Selon les techniques, j'ai envie de dire classiques de la méditation, de prise de perspective, c'est un phénomène qui se passe en moi, ce n'est pas tout moi, je peux prendre de la distance par rapport à ça et rediriger mon attention de façon plus globale. Par rapport à la douleur aussi, la surcharge mentale, toute cette souffrance qu'il y a au travail souvent ou à la maison, toutes ces choses à faire, c'est une attention qui est complètement éparpillée et qui est distraite au sens latin de distraire, de déchirer. Hein. C'est ça l'étymologie. Donc là encore, la santé mentale, l'attention est au cœur de la santé mentale.
C'est-à-dire par exemple, quand on a plein de tâches à faire à la maison, à son travail ou ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est s'arrêter un peu, se dire je respire, qu'est-ce que je vais faire d'abord ? C'est découper en petits morceaux.
Oui, c'est ça, c'est pas juste respirer, parce que
ça suffit pas, hein. C'est ça. Hein.
Mais se redéfinir, tout simplement se poser des priorités, de petites tâches simples, d'abord ça, puis ça, puis ça, etc. Avec, moi j'aime bien, parce qu'on peut se poser la question du grain, à quelle finesse je dois découper ce que j'ai à faire. C'est si on me réveillait à 3h du matin, si on me disait tiens, t'as ça à faire, hop, tout de suite je vois comment le faire, immédiatement. J'ai pas besoin de réfléchir. Donc ce petit découpage, et après les choses sont beaucoup plus simples.
Découper ce qu'on a à faire dans ce qui est le plus important et comment on peut le découper, un par un.
Voilà, exactement.
Ne pas se précipiter.
Oui.
Pour
oui.
Ne pas s'affoler.
Voilà.
Et puis, il y a aussi beaucoup de questions autour de ce que nous vivons actuellement, cette pandémie, notamment tout ce qui concerne le télétravail. Comment faire pour se concentrer quand on est chez soi, devant un écran, évidemment, d'ordinateur, par exemple. Comment rester concentré Parce que parfois, c'est de sortir de sa concentration qui permet d'être de nouveau concentré. Comment on fait ?
Oui, bien sûr. Là, en plus, il s'est posé un problème particulier pendant le confinement, c'était la présence pour beaucoup d'enfants à côté. Il faut connaître ses limites, hein. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un environnement distrayant, des activités vraiment de réflexion, c'est même pas la peine d'essayer de le faire. Donc là encore, à un moment, je sais que j'avais été interrogé là-dessus, quel conseil pratique vous donneriez ? J'avais dit, écoutez, la journée, ça va être une situation de guerre. C'est-à-dire que ça canarde dans tous les sens, c'est vos enfants qui vous demandent des choses, papa, j'ai besoin, etc. Toute la réflexion doit avoir été faite en amont. Le matin, quand tout le monde dort encore, ou le soir, là, qu'est-ce que j'ai à faire ? Et là, effectivement, vous allez devoir découper un grain très fin. Il faut que je fasse ça, il faut que j'ouvre tel fichier qui est dans tel dossier, que je l'ouvre et que je regarde ceci, que je tire telle information. Quand c'est à ce point-là sollicitant dans la journée, il faut savoir que vous n'aurez plus le temps de réfléchir. C'est terminé. Vous n'avez plus le temps de vous poser pour réfléchir à ce que vous devez faire. Donc, tout doit avoir été fait en amont, noté. Et ensuite, dans la journée, tout d'un coup, vous repérez un petit blanc de 5 minutes. Vous savez que vous pouvez dégainer une des petites missions, comme ça, et la faire en étant pleinement concentré là-dessus.
Ces petites missions, hein, ça marche pour les petits comme pour les grands.
Absolument.
J'ai encore une autre question. Comment on fait quand on n'a même pas d'enfant ni rien, mais qu'on est chez soi et qu'on est distrait ou qu'on peut se laisser distraire très facilement ? Comment est-ce qu'on fait pour revenir se concentrer ?
Déjà, se connaître. Il y a des choses, on sait tous qu'il y a des choses qui attirent plus notre attention. Donc, soigner son environnement. Il y a des endroits où il ne faut pas se mettre. Enfin, il ne faut pas se mettre avec son téléphone juste à côté, la télé derrière. On va se mettre un petit coin qui est plus conforme à sa forme d'attention. Et puis après, là, encore, reprendre le principe, qu'est-ce que j'ai à faire ? Quelle est mon intention ? Si votre cerveau, si vous n'avez pas une intention claire, votre cerveau ne va pas pouvoir faire la différence entre ce qui est important ou pas important pour ce que vous cherchez à faire. Donc il va être paumé, tout est important, rien n'est important, etc. Donc je me mets à ma tâche, voilà exactement ce que je veux faire. Dans 5 minutes, je vais en être là. Hop, je me lance là-dedans. Et je suis beaucoup plus facilement concentré. Et puis après, on revient sur cette histoire de funambule qui est plus une acquisition sur le long terme de... Mon attention va être distraite, mais ça commence toujours par le corps. Ça va être un petit regard, mon œil qui part, ensuite ma tête qui se tourne, ma main qui va chercher le téléphone, etc. Bah, ces mouvements du corps, on peut les remarquer de plus en plus tôt pour les stabiliser.
Autour de la question pourquoi et comment se concentrer, je propose la réponse de Camille tout de suite sur RFI. Quand je marche, je marche.
Je marche quand je dors quand je chante, je m'abandonne quand je marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Je suis ici. Je suis.
Je marche. C'est pour vous, Jean-Philippe Lachaud, un petit cadeau.
Ouais, merci, c'est très tranquille, j'adore. Oui, après l'émission, je vais la télécharger et me la réécouter. Merci les nouvelles technologies.
Voilà, absolument, parce qu'il y a aussi du bon hein, dans les nouvelles technologies. Autour de la question pourquoi et comment se concentrer, je rappelle, Jean-Philippe, que vous venez de publier La magie de la concentration aux éditions Aldi Jacob. Jean-Philippe Lachaud, il y a une question pour vous, une autre question. Vous qui êtes l'auteur du cerveau funambule et du cerveau attentif, soulevé par un autre chercheur en sciences cognitives qui étudie, lui, le cerveau aux limites. Cette fois-ci, c'est aux limites entre la vie et la mort. C'est le professeur Stéphane Charpier de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui est notre invité la semaine dernière. Écoutez-le.
Bonjour Jean-Philippe, j'aimerais te poser une question plus sur l'évolution que sur la neurophysiologie ou les sciences cognitives. Est-ce que tu as une idée des mécanismes évolutifs du cerveau, en particulier chez les mammifères, qui ont permis justement cet état mental particulier de concentration? Quid de la concentration, par exemple, d'une mouche ou d'un lézard?
Je ne sais pas si vous pouvez répondre sur la concentration, Jean-Philippe Lachaud, d'une mouche ou d'un lézard, mais avez-vous une idée sur cette spécificité déjà, mammifère ou humaine déjà?
Déjà, je salue Stéphane qui a en plus de la qualité d'être très sympathique, qui en plus est très bon dans ce qu'il fait. Et je suis ravi de savoir, donc j'irai me précipiter pour voir
oui,
son dernier
il
livre.
Il a publié La science de la résurrection, ouvrage ouais. bouleversant sur justement la frontière ou pas de frontière. Pas tant de frontières que ça entre mort et vie dans le cerveau. Mais là, il vous parle de la concentration dans le cerveau.
Mais excellente question. Je pense que en y réfléchissant un petit peu à chaud, je pense que le fait que l'être humain déjà ait des pouces opposables qui lui permettent de saisir des objets a pu faire en sorte que, enfin, pu contraindre l'attention vers une le fait qu'on ne fasse qu'une chose à la fois. Et cette attention très centrée sur une chose puis une autre, en fait, on ne peut manipuler dans les mains que un ou deux objets en interaction les uns avec les autres. Donc ça, c'est induit une contrainte. C'est possible qu'il y ait eu un co-développement comme ça de cet aspect de la motricité avec l'attention. Après, par rapport à l'attention de la mouche ou du lézard, il y a quelque chose qui vraiment caractérise l'être humain, c'est cette espèce de surdéveloppement du cortex préfrontal à l'avant du cerveau qui permet d'anticiper et d'organiser ses actions dans le temps, et notamment en prenant en compte le long terme, ce que peut pas du tout faire un lézard ou une mouche. Donc la concentration vers un but lointain, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé de façon exponentielle chez l'être humain, c'est clair.
Vous diriez que c'est une des spécificités de l'être humain, qui n'est pas innée, hein, c'est pas pour ça que c'est inné, mais à développer, à éduquer, mais que c'est vraiment quelque chose que nous avons en propre et que nous avons intérêt à développer pour être plus humain ou mieux humain, je sais pas comment il faut le dire.
Oui, tout à fait. Alors si on veut chercher le propre de l'homme, moi si je devais le chercher, je le chercherais là-dedans, hein, dans cette capacité à structurer son action dans le temps long, et en ayant une vue globale des choses. Pas juste l'immédiateté, mais vraiment quelle est la situation globale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Et on le voit en fait, toute la crise, la gestion de la crise environnementale, etc., c'est ce problème, c'est qu'on n'est pas assez humain. On n'a pas assez cette capacité, tous, à prendre en compte nos actions dans le long terme. Il faut devenir plus humain sur ce plan-là, et c'est vraiment, normalement, l'évolution va dans ce sens-là, hein, exactement.
Et pour devenir plus humain, donc apprenons à nous concentrer. Vous avez sous-titré votre ouvrage « La magie et de la concentration », Jean-Philippe Lachaud, un parcours ludique et initiatique. Je trouve que c'est très juste, parce qu'on s'amuse bien à vous lire. Enfin,
c'est ludique.
Il y a du jeu, c'est ludique. Mais ça va un peu plus loin que ça quand même. Ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie à nos choix, ça nous renvoie, c'est des mots, hein, intention, attention, concentration, se centrer, ça nous renvoie à nous-mêmes.
Oui, ça peut paraître léger. Alors c'est léger, hein, effectivement, c'est rigolo, mais quand même au fond, il y a quand même une dimension philosophique et spirituelle qui est très forte et qui est affirmée. C'est toute la maîtrise qu'on a de sa propre vie mentale, donc de sa vie tout court. Donc c'est pas rien en fait.
Ah non, c'est pas rien. Hein. Vous y arrivez un peu vous-même, pour vous-même, Jean-Philippe Lachaud?
Ben oui, enfin, disons que j'ai mis des années avant d'écrire sur l'attention parce que je voulais pas me permettre d'être un imposteur et d'écrire sur des choses que je maîtrisais pas moi-même. Donc quand même, chaque détail... Il n'y a pas un mot dans le livre que je ne m'applique pas à moi-même et dont je n'ai pas pu constater moi-même l'efficacité.
Donc petit à petit, ça vient.
Et je suis toujours étudiant de l'attention.
Merci infiniment d'être venu en étudiant et en chercheur en direct. Jean-Philippe Lachaud, donc partagez cette magie de la concentration. Ouvrage et dessin signé par vous. Vous avez plus d'un talent dans votre poche. En dialogue donc avec Anatole, à lire sans modération, j'ai envie de dire de 7 à 177 ans. Qui sait. Avis aux amateurs attentifs et vous revenez quand vous voulez. Jean-Philippe Lachaud pour
avec
éduquer
plaisir.
Un peu mieux notre attention, notre concentration.
Merci Caroline.
De la question de l'attention, c'est fini pour aujourd'hui et c'est bien sûr disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et c'est bon pour la concentration en plus. On se retrouve demain en direct, si vous le voulez bien, chers amis auditeurs, pour nous interroger sur la domestication animale autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les autres animaux et qu'est-ce que cela dit de nous. Piste sauvage et domestique à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre, attentif et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations. Thank you.